Lecture pour vous. Des romans roses à écouter dans le noir. Une émission conçue et réalisée par Fernand Bailac. Sur CFM, tous les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Amis auditeurs, lecteurs assidus ou occasionnels, retrouvez avec Lecture pour vous le plaisir de vous faire raconter une belle histoire, comme quand vous étiez petit avant de vous endormir. Résumé des chapitres précédents. Serge est tout décidé à soustraire Olia des griffes du milieu mafieux en montant un projet très audacieux. Il apprend que les passeports des filles et les recettes du réseau sont déposés dans les coffres d'une banque niçoise dont il a supervisé la construction dans le temps. Et il dispose encore des plans, des codes et même d'une clé du local technique. Mais il lui faut l'aide d'Olia, qui doit s'organiser malgré la surveillance de ses gardiens. En attendant, Serge prépare les moyens logistiques du cambriolage et surtout un ingénieux système d'alibi. Chapitre 8, passage à l'acte. 6 mois venaient de se passer depuis que Serge et Olia avaient décidé ensemble de tenter la grande aventure. 6 mois, depuis cette expédition nautique à Porcos, où ils avaient compris qu'un amour immense les liait l'un à l'autre. Ils se retrouvaient chaque semaine au club nautique, où ils pouvaient furtivement se parler, se réconforter, lire et écrire des lettres à la famille. Se toucher, s'embrasser et s'unir. Plus le temps passait, plus l'attention et l'émotion les gagnaient. L'impatience de se libérer de cette oppression devenait tangible, palpable. Ils tenaient le coup parce qu'ils savaient qu'une préparation rigoureuse était seule capable de les sortir de là. Heureusement, du côté de Serge, la mise au point de tout le processus et l'accumulation des détails accaparaient toute son attention et l'empêcher de sombrer dans la révolte. Olia s'était constitué un personnage soumis, régulier dans son travail, et semblait complètement collaborer à la réussite de l'organisation. Ses rapports avec collègues et la bande étaient loin d'être amicaux, mais à la limite, ça ne la dérangeait plus maintenant qu'elle était sûre de se venger d'eux. Elle donnait parfaitement le change. C'était déjà un travail de composition qui absorbait une grande partie de son énergie et de sa vengeance. Les courriers échangés avec sa mère et sa petite fille lui apportaient tout le courage qu'il lui fallait dans cette entreprise de longue haleine. Elle se révéla froide et méthodique, parfaitement maîtresse d'elle-même, dissimulant parfaitement son projet et sa tension à Oleg et à sa bande. Il leur fallait pourtant passer à l'acte. Serge et Olia décidèrent que ce serait pour le mois de mai, le 17 exactement, après le dépôt de l'argent du mois à la banque. Il fallait tenir compte des délais d'obtention du visa pour la France, qui seraient nécessaires à sa mère et à Tatiana pour arriver jusqu'à Paris. Son amie Sonia fut chargée d'entreprendre les démarches auprès de l'ambassade de France à Kiev. Serge lui fit parvenir les 3 billets d'avion Kiev-Paris Open, puisque Sonia aussi serait du voyage. Elle ne devrait prendre l'avion qu'au signal que lui communiquerait Olia depuis Nice. Olia, de son côté, réussit, par l'intermédiaire d'une des filles de passage à la villa, à demander à Nikki, sa compatriote, de se porter volontaire pour la semaine carpette à la villa, la 2e semaine du mois de mai, en changeant éventuellement avec la fille qui serait d'astreinte normalement. Il faut savoir que les filles détestaient par-dessus tout cette corvée humiliante auprès de leur propre bourreau. De plus, elles perdaient une partie de leur recette. La demande était pressante, et à une parole codée du message, Nikki comprit que c'était très important. Nikki n'eut aucun mal à échanger sa place dans le planning avec la pauvre fille qui était prévue. Et c'est ainsi qu'elle arriva le 8 mai à la villa, où Olia la prépara à une action déterminante d'évasion générale, sans lui révéler les rouages de l'affaire. Nikki était une fille très sûre, et aussi très déterminée. Et lorsqu'elle apprit qu'elle disposerait de son passeport, comme toutes ses compagnes d'infortune, elle imagina facilement avec Olia les méthodes de fuite qui permettraient d'égarer leurs poursuivants. En premier lieu, s'éparpiller deux par deux, en prenant le train vers Lyon, Toulon ou Toulouse, puis de là, prendre un avion directement sur Kiev quand ce serait possible, ou encore passer par Paris, Munich ou Turin. Toutes les filles savaient désormais assez de français pour se débrouiller dans les gares et les aéroports. Nikki fut bien surprise d'apprendre, de la bouche d'Olia, qu'en plus des passeports, elles disposeraient toutes d'assez d'argent pour entrer au pays avec un petit magot. Elle ne pouvait pas en croire ses oreilles, mais respecta la loi du silence demandée par Olia. Lorsque Serge et Olia apprirent, par un courrier de Kiev, que les visas venaient d'arriver, ils lancèrent le compte à rebours. Ils étaient extrêmement soulagés car il leur restait 10 jours à peine pour passer à l'action. Olia apprit par cœur l'adresse des copains de Serge à Asnières. Il lui faudrait aller très vite dès que les passeports seraient distribués et qu'elle aurait le sien en main. Elle opta pour un vol direct Marseille-Paris car elle savait que, tant que le cambriolage ne serait pas détecté, le passage par les aéroports serait possible pendant quelques heures. Olia et Serge se rencontrèrent une dernière fois aux Ondines, dans une fébrilité, une tension amoureuse qu'ils n'avaient jamais encore ressentie. Ils décidèrent de ne plus se revoir jusqu'au cambriolage le samedi soir en ville. À son bureau, Serge avait emprunté le chèque d'une des sociétés italiennes qui travaillait pour son entreprise, à partir duquel il fit un montage photographique assez bien réussi pour donner à Olia le chèque de garantie destiné à la location du fourgon Air Liquide. Par ailleurs, Olia garderait sur le butin assez d'argent pour payer cette location et tous les frais. Ils se mirent d'accord sur un contact par poste restante à Nice dès que Olia et sa famille seraient en sécurité au Costa Rica. Il fallait facilement compter 3 mois, peut-être plus, pour obtenir les visas touristiques des 3 femmes depuis Paris. Le temps que Serge se fasse une virginité dans une maison d'arrêt. Et ils se quittèrent sur cette détermination et cette confiance qu'ils avaient l'un dans l'autre. Le jeudi 15 mai, comme d'habitude, Olia et ses deux anges gardiens se présentaient à 16h pile devant la banque BMCI, la petite valise et le sac de voyage à la main. L'opération se déroula suivant la routine coutumière. Et il y en avait pour 275 000 euros en assez grosse coupure. Le lendemain, Serge descendit en taxi, puis après avoir traîné et dîné en ville, Serge se présentait au casino Le Roule avec son carnet de chèques. C'était le vendredi 16 mai au soir. Il fit le tour des tables de blackjack en observant les joueurs et les banquiers, puis alla très nerveusement changer des jetons de mise contre chèque de 8000 euros à la caisse principale. Avant de le fournir, le caissier adressa un coup d'œil discret à un surveillant physionomiste qui avait enregistré l'allure et les façons de ce petit débutant. Ses réflexions prétentieuses lui revinrent dans l'esprit. Il donna l'aval au caissier d'un geste de la main. Arrivé à la table, Serge fit un petit salut provocateur au donneur qui le reconnut lui aussi sans lui répondre, mais qui déclencha discrètement une alarme pour attirer une caméra de surveillance sur le nouveau venu. Pendant une heure environ, Serge s'appliqua en misant petit, avec prudence, et eut la chance de faire deux blackjack consécutifs. Puis, comme se décidant tout d'un coup, il avança une mise de 1000 euros qu'il doubla sur un split. C'était un gros coup. Qu'il perdit contre un 19 à la banque. Comme piqué par ce retournement de situation, il relança la partie suivante dans une mise encore plus forte qu'il sortit, c'est-à-dire qu'il perdit, comme un débutant. Il s'énerva, agité et fébrile, en poussant en trois fois tout son paquet de mises, qu'il perdit aussi bêtement. Quitter la table, foncer à la caisse et signer un nouveau chèque de 8000 euros ne lui prit que quelques instants. Le banquier le vit revenir vers la même table, les poches pleines de mises. La place était restée vide et il la lui indiqua d'un regard amusé. Après tout, c'était le métier qui rentrait et l'argent qui sortait. En moins d'une heure, Serge avait tout reperdu, malgré quelques passages favorables. Serge s'épongea le front, l'air abattu, de celui qui ne comprenait rien. Il se parlait à lui-même. On lui demanda de sortir de la table s'il ne poursuivait pas. Il fit semblant de ne pas réaliser tout de suite, tel un boxeur sonné. Serge s'éloigna, l'air abattu dans la salle. Puis, comme pris d'une nouvelle fureur de jeu, il alla pour la troisième fois au caissier et, après avoir fait mine de compter ce qui lui restait, il échangea un chèque de 3758 euros. Le caissier temporisa pendant qu'un adjoint prenait avis au poste de contrôle du casino pour faire une vérification rapide à partir des chèques émis trois semaines avant. L'informatique confirma. Les chèques précédents avaient été honorés. Et on pouvait continuer à plumer le pigeon jusqu'à l'os. Il n'était pas interdit de chéquer, et la banque ne pouvait confirmer son crédit à cette heure tardive. Alors, en avant la musique. La musique fut une marche funèbre pour ce pauvre Serge, qui, malgré une stratégie rigoureuse, ne mit que 2h30 à se faire tondre. L'un des membres du personnel le raccompagna en passant par le bar. Serge pleurait en déclarant qu'il avait tout perdu et en jurant qu'il ne reviendrait jamais jouer chez ces voleurs. On lui appela un taxi, on lui donna un peu d'argent pour payer la course. Il rentra chez lui passer une excellente nuit, d'autant qu'il constata qu'un fourgon de la société Air Liquide, avec tous ses équipements et sa réserve d'azote liquide, l'attendait sagement derrière le garage. Courageuse Olia, elle avait fait sa part de boulot ce soir. Elle avait crânement remis le chèque de caution, donné quelques explications, et s'était mise au volant du petit camion, où un gars de l'agence l'avait aidé à ranger sa moto. Puis elle l'avait conduit jusqu'à Simiez, chez Serge. Elle était rentrée à la villa avec la moto, ni vue ni connue. Sur le secrétaire du salon, un petit mot attendait Serge. « Ce fut du caviar de la Volga. C'est très gentil chez toi, tu aurais dû m'inviter plus tôt. » Mais je crois qu'on se retrouvera bientôt, où tu sais. Courage à percer, ton Andromède qui s'impatiente de chevaucher ton Pégase. CFM. Lecture pour vous. Diffusée les mardis à 22h. Avec rediffusion le dimanche à 15h. La deuxième phase commença le lendemain matin après un substantiel petit déjeuner. Serge enfila la mono élégant qui n'allait plus le quitter. Il nettoya soigneusement le volant, les bords des portes et les poignées du véhicule. Bref, toutes les parties du camion où Olia aurait pu laisser des empreintes malgré ses gants. Olia avait dû avoir du mal pour sortir la Yamaha du fourgon, s'imagina-t-il un instant. Serge fit un essai de congélation rapide d'un élément de poutrelle d'acier arrosé par le jet d'azote liquide pendant une minute, puis il le frappa violemment avec le merlin. Elle éclata comme du verre, et il sentit siffler des éclats d'acier près de sa tête. Un casque, et pas mal de chance serait nécessaire. Il chargea les matériels dans le fourgon et contrôla à 3 reprises avec sa checklist. Il prépara, avec un peu d'angoisse, les 3 petites saucisses d'explosifs protégées d'une gaine électrique et traversées de la mèche imbibée de fuel et d'essence. 3 mètres, ça devrait suffire pour s'abriter. Il les rangea dans une boîte à chaussures garnie de coton hydrophile, on ne sait jamais. Et il passa le reste de la journée à potasser les commandes et les codes de protection de la centrale de télésurveillance. Puis, en aveugle, il se remémora le parcours et les séquences d'action. Il était étrangement calme et uniquement absorbé à sa préparation. Pourvu que cette attitude d'esprit continue quand il serait au cœur de l'action. Il lui fallait dormir au moins jusqu'à 20h. Et pourtant, il n'arrivait pas à s'endormir. Quelque chose clochait dans le dispositif. Sans qu'il puisse l'identifier. Il tournait en séquence toutes les séries d'actions et le minutage qui y étaient associés, sans trouver ce qui le troublait inconsciemment. Il eut besoin d'aller boire un peu d'eau à la salle de bain, et là, il eut la révélation de ce qui n'allait pas. C'était justement à cet endroit, la chasse des WC. La semaine précédente, il avait soigneusement vidé et nettoyé la fosse septique pour pouvoir y cacher l'essentiel du futur butin. Et s'était abstenu de faire fonctionner la chasse pour ne pas inonder la cachette. Bon. Mais, si au cours de la perquisition qui pouvait arriver plus tard, un policier... D'accord, l'argent n'a pas d'odeur, mais ce n'était pas une raison pour le mouiller. Il fabriqua un petit écriteau vite fait. En dérangement, ne pas tirer la chasse, qu'il accrocha à la poignée du WC. Ce n'est qu'alors qu'il put s'endormir tranquille. Serge, au volant du fourgon, une casquette sur la tête et le col relevé, traverse Simiez et se faufile dans la circulation de ce samedi soir de printemps, à travers les artères de Nice. Il descend le boulevard de Riquier et entre dans le passage Ocelli. Il est 22h, et beaucoup de Niçois sont en promenade autour du port ou aux terrasses des cafés. Le passage est désert, quasiment. Il se gare dans le bateau du local technique et patiente jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Il descend de la cabine, laisse la porte ouverte et tape le code sur le boîtier extérieur. Puis vivement glisse la clé, la retire et le portail se déploie. Le cœur lui bat trop vite. Les néons illuminent le hall et il se revoit 7 ans auparavant. Il enfile sa cagoule, saute dans le camion et descend la rampe jusqu'au fond du hall. Puis il va au boîtier intérieur. Déverrouiller la surveillance locale. Par chance, les codes sont restés les mêmes depuis la mise en service, et il peut commander la refermeture du portail. Ça y est, il est hors surveillance en principe, dans le local technique, mais il préfère allonger le mur et détourner la caméra de vidéo qui balaye maintenant le plafond indéfiniment. Il saute sur le PC de surveillance. Il respire 3 fois, calmement, et sort sa fiche de codage. Il tape sur le clavier, lentement, le code de protection générale et le mot de passe. Argent. Pas d'imagination chez les exploitants. Toujours le même. Il accède au menu, appelle le fichier mémoire et le commute sur la ligne de sortie spécialisée vers la société de surveillance. C'est maintenant 22h23. Il tape Entrée. Le pouls est monté très vite et il attend d'un moment à l'autre la sirène d'alarme. Au bout de 20 secondes, le silence continue d'habiter le local. On se croirait dans une usine abandonnée, très vivement éclairée. Il compare les équipements au plan. Rien n'a changé de place. L'armoire électrique de contrôle et d'automatisme de la clim est illuminée de ses petits voyants rouges, verts et oranges. Le central ronronne comme au premier jour. Il va chercher dans le camion le percuteur équipé de sa mèche diamant et l'enrouleur de câbles. Il se branche dans une prise de l'armoire électrique et mesure, par rapport à l'angle, la position du trou. Là, ça passera entre deux poutres, de l'autre côté, dans la salle des coffres. Le bruit du percuteur lui semble un tonnerre permanent dans le silence et l'écho de ce local, pourvu qu'il n'y ait personne dans l'étage de bureau au-dessus à cette heure. Serge pousse de toutes ses forces sur l'engin. Il suit d'angoisse et de peur d'être interrompu par un vigile alerté par ce vacarme. La mèche chauffe un peu et il la remplace régulièrement. Mais le trou avance dans un béton qui n'était pas si bien dosé que ça, estime-t-il en connaisseur. Pourvu que je ne tombe pas sur un fer à béton, je n'aurai plus qu'à recommencer, pense-t-il. Le repère 60 cm s'approche du mur, et tout d'un coup, il pousse dans le vide. Il a mis plus de 2 heures d'effort. Il est 00:30. Il introduit une tige métallique dans l'orifice et vient buter sur du dur de l'autre côté. Ça sonne métallique, et ça mesure 68 cm depuis le mur. Tous les calculs sont bons. Il s'essuie la sueur avec une serviette éponge. Il ne faut pas laisser de traces biologiques non plus. Il replie le matériel de perçage dans le camion et ramène la grigneuse et des pinces électriques au pied de la gaine principale de soufflage qui s'engouffre vers le plafond. Il arrête la centrale de climatisation. Puis, il positionne une échelle et s'attaque au coude de la gaine qu'il découpe largement pour lui permettre d'y entrer facilement. L'élément de gaine métallique tombe lourdement au sol, entraînant du calorifugeage. Bon. Il redescend, s'équiper de la torche frontale et des outils, pour enfin pénétrer dans le boyau métallique d'un diamètre très confortable dans cette portion de circuit. C'est tout de même une expérience angoissante. Et, quelques mètres plus loin, il est soulagé de rencontrer le piquage de la salle des coffres, défendu par sa guillotine de sécurité. Il repère le boîtier électrique qui le commande, dévisse et accède au bornier d'alimentation, mais il n'en comprend pas le câblage. La guillotine est restée ouverte, puisqu'aucune alarme n'est activée, mais il se méfie des systèmes inertiels. Aussi, il préfère désaccoupler de l'extérieur le piston pneumatique de la guillotine en faisant sauter la clavette de fixation. Quand le vérin est libre, il agite un tournevis dans le passage du piquage et le vérin se projette, ridicule, dans le vide. Ouf, il aurait pu se trouver à demi coincé dans ce traquenard. Désormais, il peut contempler l'intérieur de la salle des coffres sous lui, à la lumière de sa torche. Il distingue bien le couloir de circulation, à peine 2 mètres de large, et vers le fond, la grille et la porte d'accès. Ce qui le rassure, ce sont les 3 rangées de portes de coffres individuels. Ils sont bien là, et quelque part, dans l'un d'entre eux, la mallette des passeports, sans parler de tout le pognon qui dort dessous. Finalement, il est très calme, et même si l'épisode de la trappe a relancé sa méfiance, tout se passe trop bien jusqu'ici. Il a un peu de retard sur le timing, mais au fond, il n'est qu'1h06 du matin. Il rebrousse chemin pour passer à la 3e phase. Il mesure soigneusement la distance parcourue. Les gaines se balancent un peu au bout de leur tige de suspension, puis redeviennent stables quand ils retrouvent le ourdi sur lequel ils reposent. Pourvu qu'elles tiennent sous l'impact du souffle tout à l'heure. Revenu dans le local technique, il apporte du camion la boîte à chaussures et son chargement de saucisses explosives au pied du trou dans le mur. Avec beaucoup de précautions, car il n'a pas l'habitude et se méfie, il fait passer la première dans le trou, puis engage la deuxième, et enfin la troisième en les faisant progresser successivement avec la tige métallique. Ça y est, elles sont tombées en douceur dans l'espace entre le mur et la paroi arrière des coffres. Il est soulagé, car le passage est à peine suffisant pour les faire coulisser. La deuxième lui donnait beaucoup de mal et beaucoup de sueur. Il se reprend et consulte la montre. 1h38. Ça lui a paru durer une éternité cette introduction. Bon, mais maintenant on va bien voir. La mèche pend du tronc, il la raccourcit un peu, et avec le bout coupé fait un essai d'allumage. Les 30 cm ont mis 15 secondes à se consumer. Donc les 2,50 m mettront plus de 2 minutes avant de faire péter les saucisses. Serge se force à respirer de plus en plus lentement. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il lui faut bien 5 minutes pour arriver à se calmer. Il pense à Olia qui doit se préparer à la villa pour entrer en scène. Mais dans quel état, la pauvre petite? Pourvu qu'elle tienne le coup et que ses salauds ne la coincent pas. Il allume la mèche et se plaque au mur un peu plus loin, l'œil sur la montre. Ça n'a pas mis les 2 minutes prévues. Le bruit d'écroulement dans la salle des coffres est clairement perceptible. Ça ébranlait tout l'immeuble. Un jet de feu a traversé le trou, mais c'est rien par rapport à la poussière qui est sortie comme d'un canon dans la gaine du plafond. Ce sera sûrement plus propre à l'intérieur pour le deuxième voyage. Tout à coup, Serge s'est mis à trembler. Non, c'est pas possible. Que tout le quartier n'ait rien entendu. D'accord, ça se passe au sous-sol. Et que lui était contre la paroi de béton. Mais enfin... Le portail a claqué sous l'onde de choc. C'est ça le troisième bruit qu'il a enregistré. D'abord l'explosion sèche, puis l'écroulement des coffres, et enfin l'onde de choc par les gaines de ventilation et les centrales jusqu'au local technique. Serge va inspecter le portail qui ne s'est pas déformé apparemment. Les grilles d'aération ont fait leur office de décompression et les baffles acoustiques sont complètement écrasées. Maintenant, il va falloir passer au plus dur. Remonter dans les gaines en tirant les flexibles d'azote liquide sans oublier l'échelle de corde. Avant de remonter, Serge lance la pompe cryogénique qui propulsera l'azote de la citerne jusqu'au bus de distribution. Il fait un essai et l'azote se vaporise en un gracieux nuage blanchâtre. Il grimpe sur l'échelle, puis progresse dans la conduite métallique, le flexible sur le dos comme un pompier tirant sa lance. Quand il a atteint le piquage de la salle des coffres, il constate que l'explosion a fait pas mal de dégâts, mais qu'il peut encore passer par la guillotine. Il contrôle à la torche l'état de la salle. À travers la fumée, il distingue que l'ensemble des coffres est resté solidaire et il peut observer tous les fonds séparés par les entretoises et les renforts métalliques en arrière. Mais ils ne se sont pas complètement couchés. Le haut s'appuie sur un mur opposé en constituant un plan incliné. La pente n'est pas trop forte et il pourra y circuler normalement. Les pattes de fixation et de boulonnage ont été tordues et arrachées par la pression de l'explosion. Serge est complètement satisfait de la manœuvre. Il redoutait que dans l'explosion, les structures se déforment, que les coffres se séparent et s'enchevêtrent, s'empilent, peut-être sans pouvoir les déplacer pour accéder au fond. La chance est avec lui, décidément. Du coup, il accélère. Il a fait descendre plusieurs mètres de flexible, puis fixe à la trappe guillotine son échelle de corde et repart dans le local technique chercher son équipement de plongée. Et le merlin. N'oublions pas les sacs de marin et les cordages de remontée, et espérons que ça servira. Il est 2h10, et toujours rien à signaler côté alarme. Faire passer l'équipement de plongée lui coûte beaucoup d'efforts, mais enfin ça y est. Il est descendu, et il marche sur le fond des coffres, comme sur un ennemi soumis. Il ne s'est pas encore rendu pour livrer toutes ses richesses. Serge est galvanisé par ce spectacle. Il s'arnache de son respirateur et retrouve toute sa discipline de plongeur. Calme sa respiration et réfléchit à la méthode. Il va s'attaquer à la rangée du bas qu'il peut facilement frapper, jugée sur les coffres du haut. Il sait, d'après Olia, que l'argent d'organisation est dans la deuxième rangée, la quatrième à droite. Mais il préfère rechercher tout de suite le coffre des passeports. Il congette une plaque liquide pendant 1 minute et immédiatement une buée se crée autour de lui. La vapeur d'eau de la pièce se condense et se glace sur l'acier autour du pistolet distributeur. Surtout ne pas le coincer dans un bloc de glace. Il arrête la distribution et se saisit du merlin. Il frappe de toutes ses forces sur le bloc de glace qui explose. Le Merlin rebondit dans un bruit métallique violent. Il est pris d'un doute angoissant. Et si l'acier résistait finalement ? Il reprend la buse et recommence plus largement, moins vite. Il entend l'acier chanter dans sa contraction. Il redonne un violent coup de Merlin et traverse le fond en l'étoilant. Immédiatement, il recommence juste à côté. Les deux trous font maintenant un passage de 20 cm sur 10 de large. Serge est fou de joie, ça marche ! Il jette un œil dans le fond du coffre à travers le brouillard que perce sa torche de plongée. Il y a, pêle-mêle, des liasses de billets de banque et deux boîtes de cuir. Beaucoup d'argent, on dirait. Eh bien, si ça continue ainsi... Il reprend la buse et opère, plus décidé que jamais. Il est déchaîné et les trous se multiplient les uns après les autres. La pièce s'est remplie de brouillard et se rafraîchit de plus en plus. L'azote remplit tout le volume et chasse l'air. C'est devenu irrespirable. S'il n'avait pas sa bouteille d'oxygène, il tomberait, doucement asphyxié. Il a attaqué la deuxième rangée et a vu beaucoup d'argent, mais toujours pas la mallette des passeports. Il arrive sur le coffre de l'organisation. Effectivement, c'est plein de liasses d'argent. Il défonce le coffre suivant qui recèle des boîtes de bijoux et des pièces d'or, avec quelques liasses de dollars, mais toujours pas de mallette. Pourvu qu'il ait assez d'azote pour arriver au coffre désiré. Il fatigue de plus en plus, à respirer, comme s'il était à 45 mètres de profondeur, et à taper comme un sourd sur les fonds. En général, il faut deux, voire trois frappes pour arriver à faire un passage de bras entre les éclats et les aiguilles d'acier. Il fait de plus en plus froid malgré la combinaison de plongée. Ça y est, il est enfin arrivé à ce coffre où il aperçoit par le trou une mallette étroite, mais assez grande pour occuper presque la largeur du coffre. Une immense joie l'envahit. Olia est presque sauvée, et les autres filles aussi. Allez, il faut surgeler et frapper dans la diagonale à 6 reprises avant de pouvoir faire repasser la mallette. Il l'ouvre et contrôle dans le brouillard de la lampe qu'elle contient des tas de papiers d'identité et 20 passeports. Il se croyait épuisé, mais la trouvaille lui redonne des forces, assez en tout cas pour s'attaquer aux 3 derniers coffres qui manquent encore à l'hécatombe. Bien lui en prend, car dans le second, il découvre une masse d'argent encore plus impressionnante que dans celui de l'organisation. Faut finir le boulot proprement, se dit-il. Et le dernier coffre cède à 5h34. Il ne prend pas le temps de se reposer car il commence à remplir les sacs de marin en grosses toiles solides et de forme allongée qui glissent bien dans les gaines de la clim. Il faut un sac pour les billets, un autre pour les poches de plastique d'un kilo de pièces d'or chacune. Et enfin, les pierres et les bijoux sont entassés en vrac dans notre poche de toile et rangés dans un troisième sac marin. La mallette est placée à part. Quand il remonte le sac de billets, il se demande s'il pourra le passer dans la trappe déformée. Mais finalement, en poussant, ça va. Le sac de pièces d'or, complété finalement de liasses de billets, est une corvée mémorable pour arriver à le hisser jusque dans la conduite. C'est très très lourd. Il jette ses dernières forces dans cette bataille du transport vers le local technique. Après avoir tiré dans la gaine, comme un forçat, tout son butin jusqu'au local technique, il balance les 3 sacs au sol. Il revient inspecter la salle des coffres, remonte l'échelle de corde derrière lui et redescend pour la dernière fois dans le local technique. Il est 6h15 et il a une soif terrible. Il cale soigneusement les 3 sacs marins et la mallette dans le fourgon Air Liquide. Serge, aidé de sa checklist, contrôle que tout le matériel est rangé dans le camion et qu'il ne laisse aucune empreinte. Il prend le temps de boire de l'eau qu'il a apportée dans le camion et se décide enfin à réintervenir sur le PC de surveillance. Finalement, le fichier mémoire n'a consommé que 7h55 sur les 24 heures de capacité. Serge, lui, est resté presque 8 heures dans cette aventure. Il faut conclure. Il réinitialise le même fichier mémoire et le refait débiter sans interruption sur la ligne de la société de surveillance à partir de 7h45 ce dimanche 18 mai. Il tombera en panne si personne n'intervient jusque-là, lundi matin à 7h45 précise. Serge recompose le code des exploitants et ouvre le portail. Il fait déjà jour, depuis un moment sur Nice, et on entend un peu de circulation ce dimanche matin, sur le boulevard d'à côté. Le camion stationne un moment sur le trottoir, des mobilettes circulent dans le passage, Serge referme le portail et le code, il retire la clé et reprend la route de sa villa à Cimier. Il est gravé. Il traverse une ville très peu animée à cette heure matinale et il est donc chez lui vers 8h. Il gare le camion derrière la villa, dans la zone du jardin où se trouve la fosse septique. Le tampon déplacé, il traîne le sac de pièces d'or et le sac des liasses de billets jusqu'au trou. La fosse est propre et sèche. Il les glisse dedans, puis referme le tampon. Tout est calme dans le lotissement, et les volets de la villa voisine ne sont même pas ouverts. Deux joggeurs font leur balade du matin dans la voie de déserte, en direction des sous-bois dans les collines plus haut, et Serge les entend passer, et se dissimule derrière le véhicule. Quand tout est redevenu calme, il approche le camion de son garage, et vide tout le matériel du cambriolage. La bouteille de plongée, le perforateur, tout ça, les mèches en diamant, les chaînes métalliques, le merlin, la torche et tout ça, et range tout ce fourniment dans son garage. En attendant, il ne cherche pas à les dissimuler particulièrement. Il faut faire vite maintenant et revenir en ville pour garer le camion au grand parking ouvert le long de la gare de triage, tout près de Simiez, de l'autre côté du Var. Et puis ensuite, foncer à moto à la station Les Mimosas. Il monte chercher dans la chambre le fac-similé du pistolet Beretta et s'habille en motard. Avec un petit plan incliné, il pousse et loge sa lourde Honda à l'intérieur du camion. Serge descend prudemment en ville. Il ne s'agit pas de se faire remarquer par un excès de vitesse. Ça y est, maintenant il est sur le parking et il se gare entre plusieurs poids lourds qui stationnent. Les petits rideaux tirés aux fenêtres des cabines montrent que les chauffeurs dorment encore ou sont allés aux routiers du coin prendre leur petit déjeuner. Serge a mis son casque de motard, visière baissée, avant de sortir du fourgon. C'est très calme et personne ne s'étonne de le voir descendre une moto de son petit camion. Il referme, après avoir dissimulé négligemment la mallette et le sac de sport sous une bâche sale au pied du siège passager. Olia a le double des clés. À 9h10, Serge était enfin arrivé à proximité de la station-service et surveillait les clients. Il connaissait déjà les lieux et repéra de loin l'imposante carrure du gérant. Il savait qu'il ne ferait pas le poids devant un tel colosse, habitué par ailleurs à se faire menacer régulièrement. Après tout, ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Le principal était de raccourcir le délai entre le moment précis où il avait enclenché pour la deuxième fois le fichier mémoire de la télésurveillance de la banque, à 7h45, et le moment où il se ferait arrêter à la station-service. C'était ça son alibi. Se faire coffrer pour un hold-up minable, pratiquement au même moment où les policiers croiraient qu'un énorme cambriolage de banque démarrait. Si les policiers se persuadaient que le casse s'était déroulé pendant les 24 heures couvertes par cette deuxième période de masquage informatique, ils deviendraient automatiquement exclus de la liste des suspects si on l'arrêtait, l'interrogeait et l'incarcérait pendant cette même période. Et le flic qui l'interrogerait n'imaginerait jamais qu'il avait tenu le coupable du casse avant même qu'il ne fût découvert. Une voiture venait de faire le plein et le client s'était dirigé vers le petit magasin où se trouvait la caisse. Serge trouvait qu'il n'en finissait pas de payer et discuter avec le gérant. Il surveillait anxieusement l'éventuelle irruption d'un nouveau client, ce qui aurait retardé encore son intervention. Le client sortit du magasin et, dans un ralenti énervant, retrouva sa voiture, se débarrassa de son manteau bien rangé sur le coffre arrière, puis démarra et s'éloigna lentement. Pas de client en vue, vite ! La Honda fit un plein très partiel. Serge laissa la clé enclenchée et, la visière relevée sur le casque, pénétra dans le magasin. Ils ne se saluèrent pas. Le gérant, à demi dissimulé derrière les présentoirs de bonbons, lui confirma le montant de la facture, 16,80 €. Serge se détourna vers un étalage de cartes routières, ouvrit son blouson et en sortit le pistolet qu'il tendit à bout de bras tremblant vers le gérant. « La caisse est vite !» L'autre recula d'un pas en fixant les yeux, puis le pistolet qui bougeait trop haut. Un petit sourire vint modifier imperceptiblement ses traits. Il annonça calmement « On ne s'énerve pas, ça vient !» Serge s'agitait déjà quand le gérant s'accroupit brusquement derrière son comptoir et en ressortit immédiatement par le côté, précédé d'un nuage de gaz lacrymogène. Serge était suffoqué, et les yeux lui brûlaient atrocement. Il ne vit même pas arriver sur lui toute la force brutale du gérant qui le renversa dans un beau désastre de cartes routières et de blisters d'essuie-glace. Le pistolet lui échappa aussitôt, et il criait sous la douleur aiguë d'une clé de bras qui lui parut durer. Le contact froid d'une menotte métallique qui mord le poignet, puis l'autre main, arrachée par la brute, qui vient rejoindre l'autre bracelet, et c'était déjà fini. Ce n'est que lorsque l'ancien catcheur releva toute sa masse qu'il réalisa qu'il l'avait immobilisé, étalé de tout son long au sol. Serge observa les petits tas de poussière, les bouts de papier, les chewing-gums abandonnés sous un présentoir métallique, juste à portée de regard. Il entendit l'autre composer un numéro téléphonique et appeler la police d'un air satisfait, blagueur. « Oui, un petit colis pour vous, comme d'hab. »« Non, c'est pas une grosse pointure. Mais dépêchez-vous, hein. Pas que ça à faire, moi. » Serge gémit « Détachez-moi, laissez-moi partir, ça va, écoutez, je m'excuse. » Auquel répondit un « Pauvre connard, ça te fera les pieds. » ponctué d'un coup de pied en pointe dans les côtes flottantes. Serge encaissa, le souffle coupé. La sirène du fourgon de police finit par retentir au loin. Tout se précipita. « C'est ça votre apprenti, Messrine ?»« Oui, ce minable m'a braqué avec un jouet de fête foraine. Je l'ai vu tout de suite que c'était du toc. L'extrémité du canon n'était même pas débouchée. » Serge lui-même se mit à rire avec les autres. On le releva et il vit l'heure à la pendule. 10h moins le quart. La suite, vous la connaissez déjà. Thank you. Ouf, ça s'est passé comme Serge et Olia l'avaient prévu. Mais maintenant commence pour la jeune femme une partie autrement plus dangereuse. Sans Serge, pour la soutenir, va-t-elle craquer? C'est ce que vous saurez en écoutant le prochain épisode de Coup Double, un nouveau roman d'Edgar Dorcé, sur CFM, le mardi à 22h et le dimanche à 15h. Vous pouvez aussi réentendre cet épisode sur le site de cfmradio.fr à la rubrique Lecture pour vous. Les illustrations musicales de cet épisode étaient le thème du troisième homme d'Anton Karas et puis un extrait de Biji de Louis Liac. Johan, qui était à la mise en onde, et Fernand vous disent au revoir pour la prochaine émission de Lecture pour vous sur CFM.